êtes peut-être sur la route de vos congés de fin de semaine, ou tranquillement installé chez vous, ou même au travail, comme moi. Eh bien, pas de panique, sur Europe 1 jusqu'à 18h, nous vous avons préparé une sélection des meilleurs moments dont va gêner avec Laurent Ruquier. C'est parti.
Une question. Ah, assez étonnante cette question, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui apparaît dans différents journaux People aujourd'hui, qu'on va avoir au téléphone d'ailleurs dans un instant, car elle a gentiment accepté de répondre à nos questions. Je vais vous donner son nom, elle s'appelle Julie Imperiali. Et pourquoi parle-t-on d'elle d'un seul coup dans les journaux, Julie Imperiali? Vous le savez, Christine?
Oh, je crois, oui, je crois que c'est la fausse Laure Manaudou.
Pas du tout, c'est Claire, le prénom de la fausse Laure Manaudou.
C'est une comédienne?
Non plus.
Julie Imperiali.
Non, ça doit être la copine de quelqu'un, si elle est dans les pages people.
Non, c'est pas la copine de quelqu'un.
Chanteuse?
Chanteuse non plus.
Elle a participé à une télé-réalité?
Non plus.
Ah, qu'est-ce qu'elle a fait alors?
Attends, elle est dans les pages people.
Elle est pas dans les pages people. Il se trouve que c'est dans la presse people que on parle d'elle aujourd'hui.
C'est une championne sportive?
Non. Alors, c'est une sportive.
Ah. Quel sport?
Mais pour être dans un
sport d'équipe?
Non.
Pour être dans un canard people, soit elle était habillée de manière bizarre. Soit...
Non. Elle est très jolie. Elle est habillée tout à fait normalement.
Sport d'équipe?
Non.
Mais elle a gagné quelque chose. Elle a oublié sa culotte en faisant un sport.
Non.
Comme ça, pas du tout. Il y a une photo d'elle?
Il y a des photos d'elle.
En action.
C'est-à-dire qu'elle est en tenue sportive, c'est normal puisque c'est une sportive.
Tennis,
c'est
du ski.
Elle fait pas un sport particulier.
Elle est sportive, quoi.
Non, mais son métier, c'est le sport ou pas?
En fait, c'est une sportive,
métier,
elle aime bien faire
sport.
Du sport. Et donc, ils l'ont mis.
On t'a pas demandé à la sportive du genre si elle court le dimanche matin. On t'a demandé est-ce qu'elle est sportive
pour
dans le
faire
sens...
le métier qu'elle fait, elle est forcément sportive.
Ah oui, alors. Elle est animatrice, alors.
Elle doit être garde du corps de quelqu'un.
C'est-à-dire.
Elle est animatrice. C'est elle fait un jeu à le...
Non, les sportifs ne sont pas tous, comment je pourrais vous dire ça?
Ils sont coachs, elle est entraîneur.
Elle est coach de Nicolas
coach
Sarkozy.
Coach de star.
De Sarkozy.
Elle est coach de Nicolas Sarkozy.
C'est
bonne réponse
oui.
De Titoff.
Ah là là là.
Bonjour Julie Imperiali.
Bonjour.
Ça vous a fait rire les questions de mes camarades?
Très rire, oui.
Alors, pourquoi d'un seul coup, on s'intéresse à vous?
Vous connaissez tous mon élève, un de mes élèves, en fait.
Qui ça? Sarkozy? Non, on va vraiment, c'est les maîtresses SM qui parlent comme ça.
Hein. Et alors?
Et en fait, j'ai créé une société sur Internet pour que le coaching, enfin, avec un concept de coaching à 1 € par jour. Et plusieurs articles sont sortis à propos justement de mes élèves et de cette méthode d'entraînement et ce site. Et ça a commencé depuis le mois de novembre dans le Madame Figaro, puis le Elle, puis le Vanity Fair Italie, puis le Times à Londres, puis à New York, puis en Australie. Donc ça fait un peu le tour de la planète parce que
deux fois par semaine vous entraînez le président de la République.
Voilà.
Avant lui, vous entraîniez son épouse Carla Bruni.
Voilà.
Et c'est évidemment par Carla qui vous a choisi.
Exactement. Voilà.
Et le cours à 1 €, là.
Expliquez-nous le cours à 1 €. C'est vrai, parce que Titoff est un peu comme moi, on comprend pas bien comment.
En fait, j'ai créé un concept sur Internet où les internautes peuvent s'abonner pour un mois, ou donc ils payent 30 € par jour, donc 1 € par jour, et peuvent suivre des cours de gym en ligne en fonction de leur niveau.
Ah oui, en ligne, d'accord.
Ah voilà.
Ah oui, c'est donc genre aujourd'hui va faire un footing, demain va faire des abdos.
C'est pas un coach à la maison pour 1 €.
Pas du tout. Pas du tout. C'est aujourd'hui, vous avez votre séance de gym à faire, vous l'avez en vidéo et vous avez votre suivi alimentaire et je réponds à vos questions par mail.
Le président, c'est sur Internet qui suit ses cours?
Non.
Vous vous déplacez à l'Elysée.
Voilà.
On peut espérer qu'un jour Nicolas Sarkozy ait le physique de Barack Obama?
On peut espérer, peut-être.
Elle a un devoir de réserve quand même, en tant que coach du président de la République.
Exactement.
Je comprends.
Et qu'est-ce qu'il fait comme exercice, Nicolas Sarkozy? On voudrait savoir.
À part Photoshop.
Ah oui, parce que c'est vrai qu'il avait des bourrelets à une époque. Ils sont toujours là ou pas?
Il avait, oui, à une époque.
Grâce à vous, il ne les a plus. Ça veut dire que vous pouvez, moi aussi, par exemple, m'enlever mes petits poignets d'amour?
Voilà, tout est une question d'assiduité, Laurent.
En tout cas, ça vous fait une pub d'enfer, évidemment.
Ben, c'est assez surréaliste, en fait, parce que je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Mais c'est vrai qu'on a, enfin, j'ai un très bon retour et.
Mais ça, il y a une meilleure pub qui pourrait être bonne pour vous, c'est si vous entraîniez Pierre Bénichoux. Ça, si vous pouviez faire quelque chose pour Pierre, là, franchement.
Mais pourquoi ça vous fait rire, cher Abby?
Non, mais parce que c'est le temps avec lequel Laurent Ruquier me dit ça. Mais vous savez, il y a
rien d'impossible.
Il n'y a rien d'impossible, c'est une question de motivation et après l'assiduité et un peu de
vous voyez Pierre.
Oui, d'accord. Ouais. Mais enfin moi j'ai peur pour vous parce que Monsieur Sarkozy m'a dit qu'il allait vous envoyer aux européennes. Hein. Toutes les femmes qu'il aime bien, il les envoie là-bas.
Elle est jolie cette jeune.
Vous êtes très jolie, moi j'ai bien envie
on
de prendre
pas le corps mais le visage déjà. Vous avez un très joli visage, mademoiselle.
Vous êtes mariée?
Mais je voulais savoir parce que
oui,
c'est spécial les coachs.
Moi j'ai marié.
Oui, mais moi aussi. Mais moi j'ai eu un coach une fois, mais il était plus gros que moi le coach. Il me dit, alors il me dit, mais vas-y, il faut que tu t'entraînes, fais des abdos, cours. Et lui, il avait un ventre, il avait plein de.
Bah oui, mais c'est pas mon cas.
On aimerait savoir un peu les exercices.
Non, elle peut pas le dire.
Ah, c'est secret professionnel.
Je peux pas, voilà. Bah oui. Il y a un moment donné, je peux pas vous donner. Yeah. Je peux pas vous dire.
Mais est-ce qu'il les pompes, il est bon ou pas?
Elle dira pas.
Quand on vous entraîne, vous pouvez au moins nous dire si vous l'appelez Monsieur le Président.
Ah, ça c'est vrai.
Je l'appelle Monsieur le Président. Oui.
C'est pas vrai.
Allez, fais-moi une cinquantaine de pompes, mon petit Président.
C'est vrai que ça doit être quand même assez étonnant. Ouais. Parce que vous êtes obligé, vous êtes peut-être finalement la seule à lui donner des ordres.
Bah, mon métier, c'est que oui, je donne des ordres toute la journée. Oui. Donc,
c'est la seule qui donne des ordres au Président.
Si. Non, il y a Lucienne, Ruchonnet aussi.
Non, vous n'avez pas entendu et nous non plus, rassurez-vous. On vous embrasse et on vous remercie. Merci. Julie Imperiali, quel joli nom en plus.
Précisément 16h12 sur Europe 1. Et que se passe-t-il? Eh bien la suite des meilleurs moments d'On va se gêner.
Europe 1, on va se gêner.
Quoi de neuf, Jérôme?
Qu'est-ce que vous nous avez apporté?
Vous êtes avec, comment elle s'appelle la jeune fille qu'on a interviewée là?
Elle s'appelle Julie Imperiali.
Avec Julie Imperiali. Vous êtes en train de courir dans la rue.
Vous avez retenu son nom, vous, hein?
Oui. Ah, elle est très belle. Son mari est loin. Vous courez avec elle, mais vous écoutez de la musique. Vous avez sur la tête un casque avec votre lecteur MP3 ou votre iPod. Loin, ça fait des fils. C'est chiant, c'est bête.
Vous avez déjà montré un truc qui permettait de pas avoir tout ça.
Eh bien, j'ai mieux encore. C'est tout bête. C'est un casque.
Sans fil.
Puisque maintenant on fait des iPods tout petits, ouais, iPods nano. Eh ben l'idée elle est de mettre le nano dans le casque.
Ah, pas mal.
Donc ça n'a pas de fil du tout. C'est un casque. Tu sais qui se tient par la nuque, par derrière. Donc tu vois, tu peux bouger dans tous les sens. Ça tient bien. C'est pas au-dessus de la tête. Tu sais la courbe est derrière.
Ah oui, c'est sur le côté.
Et l'idée toute bête, puisque c'est tout petit, eh ben on a qu'à le mettre directement dans le casque. Et donc il y a un orifice, enfin un schtouk, on le schlick. Et hop,
pas mal, ça
je le veux bien.
C'est spécial iPod.
Le décapsuleur compteur, ça m'intéresse.
Vous êtes, faut se mettre en situation. L'OM vient de gagner.
Ouais.
D'accord.
Oui, on est content.
Alors, on est content, qu'est-ce qu'on fait? On boit des bières.
Bien sûr.
Voilà, bien sûr.
Bon.
Mais attendez, si on a perdu, on est
pas content,
on boit des bières aussi.
Ouais, donc, il y a longtemps qu'on a soif. Hein.
Donc, vous buvez des bières, et je décapsule. Et hop, et au bout de ça, combien est-ce que j'ai décapsulé de bières? Voici le premier décapsuleur compteur.
Oh, putain.
Chaque fois que vous décapsulez une bière, hop, ça incrémente.
Il va le dire à ta femme.
Ouais.
Ah non, ça c'est bien,
c'est horrible.
Non, c'est rigolo.
Voilà. Vous voyez, chaque fois qu'on décapsule, hop, ça fait.
Et si tu décapsules un coca, il te moucharde aussi.
Oui, mais c'est rare qu'à Marseille, on décapsule les coca.
Il y avait des capotes pareilles.
Ouais,
avec un compteur, une capote, le nombre d'œufs que t'as niqué, ça s'inscrivait au fur et à mesure pour la capote.
Mais dis donc, vous changez de capote à chaque fois que vous changez de fille, quand même.
Ah bon? Ah bon? Ah merde, putain.
J'ai la même depuis 10 ans.
Oh non, quelle horreur.
Donc, ça sert à rien, c'est un décapsuleur normal qui compte le nombre de capsules. Dans les grands bars, ça peut servir.
J'ai touché un truc qui pue là.
C'est Jérôme.
Dans le même genre, vous êtes dans le désert, seul, avec simplement une casquette pour vous protéger du soleil.
Avec un ordinateur.
On sait jamais. Et devant vous, ah mon Dieu, une bouteille de bière. Merde, j'ai pas mon décapsuleur qui compte automatiquement. Pas grave.
Me dis pas que c'est une casquette décapsuleuse.
C'est une casquette décapsuleuse.
Je te crois pas.
Oui.
Non.
Oh, ça c'est bon.
Là,
ça.
On touche le sublime de l'inutile.
Ah non, ça c'est formidable.
C'est la première casquette.
Ça c'est formidable.
Dans la visière, un peu rigide, il y a un décapsuleur. Vous la prenez comme ceci et schlac. Vous pouvez ouvrir en n'importe quelle circonstance votre bouteille de bière.
Qu'est-ce que c'est
ça
nul.
Ça c'est bien ça.
C'est totalement nul. On atteint le.
Que pour ouvrir une bouteille de bière. Avec
moi c'est ce que je préfère. Moi c'est ce que je préfère dans ce que vous nous apportez.
C'est génial.
C'est vraiment.
Et alors peut-être que ce qui pue, je vais vous dire, Titoff, ce sont les ballerines, parce que une ballerine, si elles ont déjà été utilisées, bonne idée.
Ah, c'est pas. Là on est proche de l'inutile aussi, même du superfétatoire et même du con. Les ballerines, vous connaissez les ballerines, c'est tout petit, les petits chaussons. Oui, voilà. Ça prend pas de place du tout. Du tout. Et ben, il y a un mec qui a inventé la ballerine pliable. C'est une ballerine qui se plie en deux et qui, du coup, a un avantage énorme. Deux un, coûte plus cher, et deux, prend plus de place que si on la pliait pas. Là, ça va être vendu dans une petite boîte.
On peut la plier, la ballerine normale, non?
Oui, tu la plies normale. Elle a une pliure avec un,
C'est pour les unijambistes. C'est pour les danseuses unijambistes uniquement.
Il y en a qu'une parce que comme ça prend beaucoup de place, j'ai pu en amener qu'une.
Mais ce que je veux dire, c'est que la ballerine normale, on peut la plier.
Elle est moche en plus.
Oui.
Ah oui, d'accord.
Oui, oui. Et celle-là, elle a un axe, enfin, tu vois, une rotule.
Mais c'est comme si tu nous présentais le t-shirt pliable, quoi. C'est pareil.
C'est un peu ça. C'est très con. Oui, sauf que mon t-shirt pliable coûterait plus cher et serait moins pratique. Et c'est là, c'est comme la ballerine.
C'est ça qui pue, en fait. C'est la ballerine.
Ah oui, c'est ça qui pue.
Elles sont très jolies, ces ballerines.
Il y a un dernier objet?
Allez, un dernier.
Allez, imagine, il reglace. Ouais. Catastrophe. Je vais pas avoir des chaussures spéciales. Non. J'ai été chez Pearl. On en parle souvent ici. Vous achetez ça par correspondance. On dirait un gros élastique sur lequel on a mis des trombones en quelque sorte. Vous prenez votre chaussure.
Des crampons, tout simplement.
Des crampons.
C'est des crampons.
Des crampons. Tu prends ta chaussure.
Ah, bah voilà.
N'importe quelle paire de chaussures.
Là, ça pue vraiment.
N'importe quelle pointure, peu importe. Tu tends l'élastique à l'avant de la chaussure. Ah. Hop! Sur le talon.
Tu l'accroches à la semelle.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est génial.
Et ça vous fait des chaussures à crampons. Des chaussures à
clous. Ça, c'est bien pour les petites mémés qui nous écoutent. Vas-y, donne le prix.
Ouais. Le prix, je sais pas.
Ah, pour les petites mémés et pour les skinheads, c'est bien aussi, ça là. avec des clous dessous.
C'est vraiment, non, mais toi, les petites mémés qui ont peur de sortir de chez elles quand il y a de la neige.
9,90€.
9,90€.
Franchement, bah, c'est bien, tu vois. Moi, si j'avais encore une grand-mère, je lui offrirais ça.
Non, l'intéressant du système, c'est que ça se met facilement, ça s'enlève facilement. C'est comme un élastique, hein.
C'est super beau.
C'est super solide. C'est assez discret quand tu marches à l'extérieur. T'es, on voyait
moi,
les
gens.
Moi,
je veux pas mettre les chaussures à crampons. Il va marcher avec quoi autrement?
Non, mais les crampons sont jolis.
Là, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Arnaud Crampon dans la bande.
Parce que sinon. Autant les crampons sont jolis, autant les godasses de Bonaldi.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Question culture générale, si je vous dis Hamida Djandoubi, c'est un nom que l'histoire retiendra en France. Pourquoi a-t-on retenu le nom d'Hamida Djandoubi dont on reparle aujourd'hui dans la presse?
Je vais laisser ma place
à... Ah, moi je crois qu'elle a gagné l'Eurovision.
Hamida Djandoubi?
Oui, et oui, une chanteuse tunisienne.
Avec quelle chanson?
Elle a gagné avec...
D'abord, il n'y a pas de chanteuse tunisienne à l'Eurovision, Pierre.
C'est con.
Non, c'est une chanteuse d'origine tunisienne qui défendait les couleurs de la France.
Ah, en quelle année?
Ah non, tu confonds.
Comment elle s'appelle?
Avec Amina.
Ah oui, Amina.
Amina.
Le clip magnifique.
Pas loin,
vous vous confondez avec Amina qui avait effectivement terminé ex aequo, mais une clause de règlement avait finalement fait gagner l'autre candidate et Léon Zitrone s'en était égosillé.
Voilà, presque bonne réponse de Pierre Benichou.
Ah non, ça n'a aucun rapport.
Elle était bien, Amina.
C'est un homme ou une femme?
C'était un...
Amina, on n'a pas dit Amino.
Non, mais celui qu'on cherche.
C'était un homme, donc il est mort.
Hamida Djandoubi. Oui, Hamida et c'est Djandoubi. Même d'ailleurs son décès qui, évidemment, a un lien direct avec la question.
C'est le dernier condamné à mort de la guillotine.
Le dernier à avoir eu la tête tranchée le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes à Marseille. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Non pas condamné, hein, parce qu'il y a une différence entre être condamné à mort et
être exécuté.
Je parle bien du dernier exécuté, le dernier à avoir eu la tête tranchée le 10 septembre 77. C'était à la prison des Baumettes à Marseille.
Je peux vous dire que le dernier qui a été condamné à mort et pas exécuté, il s'appelait Philippe Maurice. Et ce Philippe Maurice qu'on a entendu par là, il dit j'étais là.
Il a eu droit à la dernière cigarette.
Non, pas du tout. Et j'attendais le 10 mai 1981. L'élection ou pas de Mitterrand. Et les autres jouaient leur préférence politique. Moi, je jouais ma vie.
Et le premier guillotiné, on l'a le nom ou pas?
Ah non, mais en revanche, on a tout l'historique hein, de la condamnation à mort et surtout de l'exécution de la peine sous l'ancien régime, ce que j'ignorais. La hache était réservée aux nobles, le bûcher aux hérétiques, le démembrement aux voleurs. Et c'est seulement sous la Révolution, effectivement, qu'on a adopté la guillotine grâce ou à cause du fameux docteur
Guillotin.
C'était à la carte, hein, quoi.
Eh oui, voilà.
Du choix, quoi.
Je sais pas ce que j'aurais choisi.
Mais la hache, on coupait quoi? La tête aussi?
Oui, j'imagine, mais à la hache.
Ouais.
Et c'est moins rapide.
C'est plus dur.
Oh non.
C'est plus classe, quoi.
Le coup de hache, tu y es.
Au premier coup de hache, tu vois, c'est.
Vous pouvez rater son coup, quoi.
Ça dépend si c'est Michalak qui tranche la tête, faut 10 coups. Au moins,
c'est le bourreau, c'est un môme de 12 ans.
Il
n'avait pas soulevé la hache.
Le démembrement, il commençait.
Le démembrement, c'est. Oui.
Avec des chevaux, non?
Ah oui.
On attache chaque membre à 4 chevaux. Et chacun va dans un. Au lieu d'aller dans le même sens, c'est qu'on l'a. Ils vont chacun dans un sens différent.
Ah, c'était le bon temps, hein.
Ah, oui,
Ah, la belle époque de la torture, c'était bon. Hein. Ah, on aimait ça.
Mais il y avait au Moyen-Âge qu'on appelait la loi du talion, quoi. C'est-à-dire, tu volais une pomme, on coupait la main, quoi. Tu violais une meuf, on coupait les cheveux à cette salope et on l'envoyait au couvent, quoi. Il y avait une logique, quoi.
C'était ça, le Moyen-Âge.
C'était bonheur.
Ah, et ça vous fait rire. Bande d'andouilles.
Les dernières
surtout
heures.
C'est pas plus civilisé que la loi du talion. Contrairement à ce qu'on croit.
C'est-à-dire.
Eh ben, on croit, c'est le début du monothéisme. Je suis chiant aujourd'hui, mais tant pis. C'est que, on a dit, pour un œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, ne tue pas pour un oui, pour un non. Celui qui t'a enlevé un œil ne lui enlève qu'un œil. Celui qui t'a enlevé une main ne lui enlève qu'une main. Et c'est non pas une morale de vengeance, c'est une morale de modération.
Ah
la
oui.
loi du talion.
Ouais, enfin, sauf quelqu'un qui tue, alors, quelqu'un qui te tue, tu peux pas le tuer.
C'est difficile que tu le tues. Si t'as bien tué, tu peux pas le tuer.
On change d'ambiance, on continue notre sélection des meilleurs moments d'On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier.
Europe 1, On va se gêner, la question intelligente
qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé.
Qu'est-ce qui a été peint en 1857 par Jean-François Millet et qui revient hélas à la mode?
Pourquoi hélas?
Peut-être les femmes en chair?
Non.
Hélas, et ma main dans ta gueule.
Oh, la tête de Caro quand t'as dit ça.
Hélas, non mais.
Bah pourquoi hélas? C'est une indication.
C'était
que je vous donne.
Quel genre de tableau? C'était un paysage?
Ah, c'est justement ce que je vous pose comme
c'est
question.
C'est un tableau précis ou c'est une série de tableaux?
C'est un tableau précis.
Est-ce qu'il a pas un paysage et qui aujourd'hui serait genre dévasté par le réchauffement climatique?
Non, c'est la famine. C'est la famine. C'est le manque de d'argent.
Ouais, mais alors c'est le titre exactement du tableau que je vous demande, puisque justement aujourd'hui ça revient et on en voit un peu partout, alors que effectivement ce tableau a été peint en 1857 et on utilise le même terme dans l'actualité du jour.
Les clochards?
Non.
Ça a rapport avec j'ai envie de dire la soupe populaire?
Non, mais oui, ça a rapport avec la pauvreté, indirectement.
Avec les Restos du cœur.
Vous connaissez pas ce tableau de Millet?
Je connais l'Angélus, c'est tout.
Eh ben, y a pas que l'Angélus.
Les glaneuses?
Bonne réponse de Fabrice Eboué, les glaneuses de Millet.
Ah, il est vulgaire mais cultivé aussi le garçon. Hein.
Alors là, bravo Fabrice. Effectivement, parce que hélas, on voit de plus en plus de glaneurs et de glaneuses, non seulement dans les villes mais dans les campagnes, à cause de la pauvreté. Des gens vont sur les marchés récupérer les restes ou les fruits qui n'ont pas été vendus, ou même parfois à la sortie des supermarchés, les articles dont les délais de consommation sont dépassés. Et les glaneurs sont hélas de plus en plus nombreux. C'est une étude qui révèle pour la première fois le profil des glaneurs et des glaneuses. Ces personnes qui récupèrent ce que les marchands jettent. Et Martin Hirsch lui-même, aujourd'hui, va étudier cette enquête parce qu'il se dit choqué par la prolifération des glaneurs et des glaneuses sur les différents marchés et les glaneuses de Millet. C'est un célèbre tableau qui date de 1857 qu'on peut voir au musée d'Orsay, d'ailleurs. Les glaneuses qui ramassaient dans les champs les épis ayant échappé aux moissonneurs.
Mais moi, je vais vous dire, j'ai bien étudié, j'ai bien observé l'économie ces derniers temps. Je sens que ça va être la crise, hein.
Vous avez raison c'est bien de le préciser.
Ouais, ça va pas tarder là.
Ah oui. Ouais. Vous avez des solutions contre la crise?
Bien sûr, ouais, mais un peu plus de temps. Et
mais tes conneries, tu les glanouilles, toi, généralement.
En ton cul.
Non, bah, alors c'est pas une réponse.
C'est une réponse qu'on aurait pu faire au bar à 2h du matin. C'est vrai que si on repart en plein après-midi.
Il y a des restes de l'Alpe d'Huez.
Non, je préférerais interrompre ma collaboration.
Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1.
Quelle épidémie reste pour l'instant encore modérée, mais toutefois est au-delà de la moyenne dans le Nord-Pas-de-Calais, en Alsace actuellement, et pourrait gagner le reste du territoire?
La gastro?
Non.
Oh bah non, j'imagine que c'est pas une vraie maladie, sinon c'est pas rigolo.
Ah, c'est quand même une vraie maladie.
C'est pas la grippe, hein. C'est pas la grippe,
justement.
C'est un truc ridicule.
Non, la grippe et la gastro continuent de faire des ravages. C'est vrai, mais il y a une troisième maladie qui commence à faire une petite percée d'après le réseau Sentinelle de l'Inserm, qui est, vous savez, l'Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale. MST?
Non, pas MST.
C'est ah oui, une maladie courante?
En tout cas, c'est une maladie transmissible. Ça,
une maladie courante? La colique? Oh, elle est bonne! Non, 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 là, est-ce que... là, je dois dire, j'ai atteint un certain sommet.
C'est une maladie avec des boutons?
La varicelle.
La varicelle. La varicelle. Bonne réponse débouée, Titoff. Moi, je l'ai pas eu, la varicelle, mais je pensais pas. Là. Il y a une description dans la presse de la varicelle, c'est assez terrible.
C'est horrible.
Des vilains boutons qui vous gratteront beaucoup. Elle nécessite une hygiène rigoureuse et surtout interdit les enfants de crèche et d'école jusqu'au dessèchement des boutons.
Ah ouais.
Extrêmement contagieuse, la varicelle se transmet par contact direct avec les lésions cutanées, mais aussi par inhalation de gouttelettes de salive émises par une personne malade.
Mais lorsqu'un enfant a la varicelle, bon, c'est assez habituel. Tous les enfants passent en général par là. Mais quand c'est un adulte, moi j'ai un pote qui a eu la varicelle. Mmh. Le premier jour, quand tu le vois arriver, c'est hallucinant, quoi.
Ouais.
On dirait que c'est un mec, tu sais, on dirait que quelqu'un qui s'est pris des plombs dans la tête.
On lui donne une petite cloche.
Ouais, presque. Hein.
Chaque année, la varicelle touche quand même 700 000 personnes et il y a 20 décès. Quand même, on peut mourir de la varicelle.
Ah bon, c'est une forme de petite variole, vous vous rappelez cette maladie?
Ah, des petites ravioles, ça j'aime bien.
Broyant, ouais.
Un cocktail des meilleurs moments d'On va se gêner à consommer sans modération sur Europe 1.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Christine.
Ah bonjour Laurent, qu'est-ce que je suis contente de vous avoir.
Et nous alors?
Oh, bah, ça fait plaisir de vous entendre, d'avoir cette voix si joyeuse.
Je dirais Catherine Barmard, reparlez encore.
Dites-moi bonjour Pierre, pour me faire plaisir.
Moi aussi ma chérie, ça me fait bien plaisir.
Oh, je suis contente de vous avoir.
Moi aussi, moi je vous aurai bientôt d'ailleurs.
Mais vous êtes fou,
pour dîner à la maison.
Ça commence bien.
Saint-Julien de Concelles, ça se trouve où ça?
Alors ça, c'est près de Nantes, mon cher Laurent. C'est en fait, c'est le pays du muguet, du muscadet, etc.
C'est entre Nantes et Montaigu.
Qu'est-ce que vous faites à Saint-Julien-de-Concelles, à part renifler le muguet?
Laurent, c'est assez compliqué. En fait, si je devais choisir, je dirais comédienne.
Comédienne?
Oui.
Non, mais dans la vie,
tu peux nous jouer la colère, là, rapidement?
Non, mais arrête.
Allez, juste un petit coup, là.
Non, Fabrice, je t'adore. Je trouve que tu es le nouveau des proches. J'aime beaucoup ce que tu fais.
Ça va bien finir.
Elle joue bien, hein. Elle joue très bien la comédie.
C'est ça, Fabrice. On avait dit la colère, pas le mensonge.
Non, mais elle fait bien l'hypocrisie.
Je joue, hein.
De quoi?
J'ai dit pouille-pouille, je joue.
Ah oui, non.
Je joue, tu es le nouveau Thierry Leluron. Hein.
Christine,
nouveau Fernandel.
Marine Monroe, hein, voilà.
J'allais le dire, c'est dingue.
Et puis Pierre, tu es l'ancien Coluche, quoi.
Christine, vous allez affronter Baptiste.
Bonjour Laurent.
Bonjour Baptiste.
Salut Baptiste.
Bonjour à tous.
Vous êtes à Pont-Audemer.
Dans l'Eure, voilà.
En Seine-Maritime. Ah non, dans l'Eure. C'est de l'autre côté de l'eau, comme on dit chez nous.
De l'autre côté de l'eau, à 20 minutes d'Honfleur.
Oui, c'est vrai que c'est pas si loin de la Seine-Maritime, mais enfin, c'est dans l'Eure, après tout. Et qu'est-ce que vous faites à Pont-Audemer?
Ah, j'ai travaillé sur la côte à Deauville, dans un hôtel très connu où sans doute vous avez passé vos vacances.
Ah oui, lequel?
Le Normandie.
Exactement.
Ah ouais.
Mais qu'est-ce que vous faites dans l'hôtel?
Ah, du service en restaurant.
Racontez-nous des trucs. Alors, quel client insupportable vous avez eu?
Ouais.
Ah, j'en ai vu quelques-uns connus, comme j'ai aperçu Brad Pitt.
Ah oui, il était insupportable, Brad Pitt?
Bah, je l'ai aperçu, mais il avait pas l'air très sympathique.
Ah oui, d'accord, c'est juste à la gueule, quoi.
C'est ça, ouais, voilà. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est con, Brad Pitt.
Ouais. Ah ouais, il faut rien de la journée.
Exactement.
On appelle Brad Pitt Bull, on dit tout le temps.
Qui d'autre?
David Ginola.
David Ginola. Ah, ça, c'est peut-être un copain de Dorasso.
Assez sympathique.
Trop, non.
Hein? Et sympathique, Ginola.
Ouais, ça allait.
Non, mais c'est des pas sympas, nous, qui
non,
nous intéressent.
Non, oui,
dis-nous, mais Ginola, quand il marchait, tout ça, ses cheveux, ils bougeaient bien.
Ouais.
Comme dans la pub.
Qui d'autre?
Daniela Lombroso, par exemple.
Sympathique?
Oui, très aimable.
Ah, oh, ah c'était pas elle.
C'est un sosie, c'est comme pour l'Ormano Doux, c'est pareil.
Qui d'autre?
Dans l'hôtel, après, pas forcément des stars, mais c'est vrai, c'est une clientèle assez âgée.
Qui c'est qui laisse les plus gros pourboires?
Ah, ils sont radins. Plus ils sont riches, plus ils sont radins.
Ah, ouais, ça. Il y a des histoires de coucherie, parfois des trucs rigolos.
Ah, non, moi je reste dans le restaurant, donc j'ai pas été voir dans les chambres.
Il va pas vraiment retrouver du travail à l'hôtel Normandie.
Non,
c'est déclaration sur Europe 1.
C'est vrai, j'avais oublié.
Il va changer de région.
Vous êtes grillé sur cette région.
Christine le Sud-Ouest. Contre Baptiste. Est-ce que vous êtes prêts l'un et l'autre?
Prêt.
La question. Oh, elle est prête en tout cas. Si je vous dis que dimanche, Fabio Fazio a réussi quelque chose que d'autres animateurs lui envient. Quoi donc?
Il a eu un invité particulier?
Oui.
Attends, c'est la télé italienne, il y avait Carla Bruni sur la télé italienne.
C'est-à-dire
donc il a interviewé
elle
Carla
a fait
Bruni.
Une interview,
bonne réponse de Joujou.
En disant qu'elle était pour rien dans le la libération.
C'est trop tard. Merci, si tu as perdu, tu peux jouer la colère maintenant.
Essaye la dépression pour voir.
C'est une bonne réponse de Jérémy Michalak, plus rapide encore. Il y a eu un petit temps de 3-4 secondes où vous pouviez vous glisser quand même.
Ouais, ouais. Je trouve qu'elle a été bousculée là.
Ah oui,
mais Christine... parce qu'elle le savait, elle a commencé à le dire.
Ah oui, moi je le savais, j'étais.
Et l'autre est arrivé comme un bulldozer.
C'est pas vrai,
c'est pas vrai
ce qui s'est passé.
C'est une brute ce type. Sous ses dehors. Discret, c'est une brute.
Ben, vous allez raccrocher, Christine, et puis le jour où on passe à Nantes, peut-être pour le festival Juste pour rire, on vient vous embrasser à Saint-Julien-de-Concel.
Bah, appelez-moi sur mon portable.
Quel âge tu as, Christine?
Je suis une vieille.
C'est-à-dire 18, 19
ans.
Ah oui,
46 ans.
Ah ouais. Là, ça vous intéresse moins là, hein.
Ouais, d'un coup, là, Non, arrête, 46 ans, ça commence à être le bon âge pour une comédienne.
J'ai l'âge de Laurent, mais je fais jeune.
On peut se la partager à deux à Kitos, c'est 23-23, quoi.
Mais enfin, ça va pas, comment vous parlez des femmes.
Quelle horreur.
Non, n'importe quoi. Vous avez une voix très jeune.
Hier, vous avez été un petit peu enfoirée avec l'auditrice que vous avez eue.
Ah bon, qu'est-ce qu'on a dit?
Ah oui.
Christine, tu peux nous jouer le silence un petit peu?
J'ai du mal.
Allez, on vous embrasse, Christine, et vous aussi, Baptiste, du côté de Pont-Audemer, et on souhaite que vous retrouviez très vite un emploi, Baptiste.
Merci.
Merci à tous les deux.
C'est la crème de la crème dont va gêner jusqu'à 18h sur Europe 1.
Europe 1. La question tirée par les cheveux. Spécial. Laurent Ruquier.
Il y en a 485 000 en France et 60% d'entre eux ont plus de 20 ans. Et c'est là le problème.
Le problème, c'est qu'ils aient plus de 20 ans.
Oui.
Ah, s'ils avaient moins de 20 ans, ce serait pas un souci.
Non. Il y en a 485 000 en France et le problème, c'est qu'ils ont plus de 20 ans.
Eh ben, des lycéens?
Pour 60% d'entre eux. Non. Des lycéens.
Alors, des collégiens.
Eh ben oui, c'est grave, s'ils ont plus de 20 ans, justement.
60% de lycéens qui auraient plus de 20 ans.
Eh ben, c'est pour ça que c'est grave.
Des mecs en CM2.
Il y aurait que 485 000 lycéens en France.
Ouais.
Je pense que ce sont les illettrés.
Pas du tout. Ils sont 485 000 en France. 60% d'entre eux ont plus de 20 ans. Et c'est ça le problème.
Des puceaux?
Non.
Pourquoi c'est un problème?
Ah bah.
C'est des fans de Laurie, quelque chose comme ça?
Ok, donc il y a à peu près 250 ou 300 000 personnes, puisque 60%, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font, ces 300 000 personnes?
Ils ont
la varicelle.
Ils sont atteints d'acné juvénile.
Non, pas du tout.
Est-ce qu'ils ont une particularité physique qu'ils ne devraient pas avoir?
Je pense que vous devez réécouter la question.
Ok.
Europe 1. La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier.
Voilà, hein.
On écoute.
Ça faut se méfier, il faut bien écouter les jingles parce que ça peut vous aider, vous voyez, pour
tirer
la suite.
Tirer par les cheveux, ça peut aider.
Pas au premier
des chauves,
degré, quoi.
C'est des chauves?
C'est une question tordue.
Non, c'est une question tordue.
Tordue.
Ah. Ils sont 485 000 en France. Le problème, c'est que 60% d'entre eux ont plus de 20 ans.
Ok, est-ce qu'on parle d'êtres humains?
Non.
Eh ben voilà! On parle de quoi alors?
Des chiens?
Non.
Pas des chiens. Est-ce qu'on parle d'un animal?
Non.
Non, genre des ascenseurs ou un truc comme ça.
Les ascenseurs! Bonne réponse de Jérémy Michalak!
Je l'ai aidé quand même.
Les ascenseurs. Il y a 480 000 ascenseurs en France, 485 000 pour être précis. Et effectivement, 60% du parc des ascenseurs a plus de 20 ans. Nous avons les ascenseurs les plus vétustes d'Europe
du
chez
monde,
nous.
Du monde, je pense.
Donc 40% des ascenseurs sont mineurs.
Au moins de 20 ans.
C'est énorme. Mais les ascenseurs à Paris, moi, ce que j'ai jamais compris, c'est qu'ils te mettent un ascenseur, mais même tout seul, t'as du mal à rentrer dedans. Tu ouvres la grille, hop, le truc de sécurité qui s'ouvre, et c'est ou le sac ou toi, quoi.
pas les deux.
C'est ou l'un ou l'autre. En fait, tu dois choisir où c'est ton sac qui prend l'ascenseur ou c'est toi, quoi. Mais les deux en même temps, tu peux pas.
Bah, en tout cas, ça gâche la vie de nombreux habitants parce que, effectivement, en banlieue, à Grigny, par exemple, il y a une panne depuis des mois et des mois et personne ne vient réparer les ascenseurs. Et les gens, par exemple, sont depuis 4 mois à monter monté 11 étages à Grigny.
Et à Marseille, carrément, il y avait un reportage sur ça dans une des cités.
Les mecs passent par les toits.
Ils sont obligés de passer par les toits de l'autre immeuble. Ouais,
mais rappelons que c'est les pauvres qui ont le plus de problèmes de surpoids, donc c'est pas une mauvaise chose non plus.
C'est bon pour le cholestérol. Voilà, t'as raison. Ouais.
Vicage d'ascenseur, est-ce que vous avez un avis?
Oh non.
Laurent Ruquier tous les jours sur Europe 1.
Vous voulez que je souligne vos bites?
Elle était très bonne celle-là, Laurent.
Il a surtout du mal à monter avec son sac à dos, Rasso.
Pierre Bénichoux tous les jours sur Europe 1.
Non, mais on essaye, Laurent et moi, de vous montrer ce que c'est que la vieille école.
On a bien compris, là.
Tout ce qui rentre, c'est vente.
Pauline. Ah, on est Pauline ou Pierre?
Ouais, oui, on a eu une autre éducation que ces mecs-là. On sait même pas d'où ça sort, d'ailleurs. Oui.
Le kiné ne veut pas monter les étages, témoigne, par exemple, une habitante de Grigny du 10e.
Ah, le kiné, c'est un peu comme ma sœur.
Oh non.
Elle veut pas monter les étables non plus, ma sœur.
Une femme de ménage qui dit le seau est lourd. Nous avons aussi quelqu'un qui a un bébé de 18 mois et qui, évidemment, doit porter le bébé pour monter jusqu'au 11e étage. C'est pas de chance. Quand on habite le premier, évidemment,
on s'en fout.
Pas, non, mais ça, pas, c'est pas, sûr. Pas de problème.
On peut pas monter le bébé, elle n'avait qu'à pas se faire baiser aussi, merde.
finalement, c'est bien l'ancienne école.
La vieille école, elle est propre. Hein.
Caroline, vous rentrez, vous dans... Enfin, je veux dire...
Est-ce que je rentre dans un ascenseur?
Elle a un monde charge chez elle.
Non, mais il a pas tout à fait tort, Titoff, parce qu'il y a des ascenseurs, c'est pas que vous rentrez pas dedans, c'est la difficulté à passer entre les deux battants.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est que si tu mets ta machine à laver quand tu déménages, parfois elle rentre, mais comme il y a les battants qui s'ouvrent que dans un seul sens, elle peut plus sortir. Oui, mais là, tu niques l'ascenseur.
On parle des vieux ascenseurs.
Pas Caroline avec une machine à laver,
pardon. Non, mais attendez. D'abord, moi, je trouve que ces vieux ascenseurs sont très rassurants. Les autres, j'aime
pas. Rassurants?
Bah oui.
Ah oui, il y en a plein qui disent ça.
C'est vrai, si tu tombes en panne, on t'entend, tu peux parler, c'est pas complètement hermétique. Maintenant, c'est vrai que j'ai habité un 6e étage et l'ascenseur était en panne un mois pendant que j'étais enceinte. Je comprends, je partage la douleur de ces gens-là.
Mais c'est très long à remettre aux normes en plus. Hein. Moi, je sais qu'ils sont
en train de... Ça met un mois, je sais que chez moi, on est en train de le mettre aux normes.
Ah, putain, moi, ils me le font.
C'est un ascenseur tout petit, on entre à deux, mais comme ça, vraiment, il faut être.
C'est ça qui est
bien. Et quand t'as oublié un chewing-gum, quand t'as pas les chewing-gums, tu sais que tu te parles comme ça.
Et ça met exactement 6 semaines.
Pour monter?
Mise aux normes.
Pour avoir envie d'y aller.
Oui, il faut prévoir quoi, un peu de rafraîchissement.
6 semaines pour monter chez Pierre.
C'est l'ancienne école.
C'est,
ah ouais.
C'est la pour vieille ça que école. Je vois ma femme deux fois par an.
Et en parlant d'équipe, si on retrouvait celle de Laurent Ruquier et de ses complices pour le meilleur du meilleur dans Vagéné, merci à Rémi, mon technicien, de m'avoir suggéré ce lancement.
Je vous emmène du côté de Cândido Godoy, c'est dans le sud du Brésil, et là-bas, une naissance sur 5 donne des jumeaux blonds aux yeux bleus. Pour quelle raison?
Une naissance.
Parce qu'il y a une colonie de Suédois qui se sont installés dans la région.
C'est quoi? C'est des nazis pendant la guerre qui sont planqués en Amérique latine et ils font des gosses là-bas?
Alors là, vous êtes tout près de la bonne raison, réponse.
C'est vrai que pendant la guerre, après la guerre, tous les dictateurs
sont allés. Ce sont les enfants qui avaient été... Quand les nazis avaient pris les enfants pour en faire des purs ariens...
Ah, les bonnes
Et ce sont les enfants qui sont nés pendant la guerre qui ont fait souche là-bas.
Non. C'est pas ce point.
Alors, il y a les nazis qui sont allés conseiller les dictatures de l'Amérique du Sud. C'est toute la descendance.
Alors, effectivement, c'est lié au régime nazi. Et peut-être vous pouvez essayer de trouver qui s'est réfugié dans ce village de Cândido Godoy pendant quelques années.
Ah, c'est un seul mec, il est tout seul. Oui. Il a repeuplé la moitié du Brésil avec des petits blancs.
Non, il n'a pas repeuplé.
Non, bah c'était...
Il a utilisé...
Je ne sais plus lesquels sont morts ou pas.
Il a utilisé du
Docteur Mengele.
Le docteur Mengele. Bonne réponse de Pierre Bénichoux.
Et moi, je dis que tous les blonds sont des sales cons. Voilà.
Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Eh ben, le docteur Mengele avait trouvé refuge dans ce village, médecin donc du régime nazi, chargé par Hitler de travailler sur la pureté de la race. Et effectivement, il aurait pu se livrer, il aurait pu à tout ça être au conditionnel. C'est un historien argentin qui tente d'expliquer la présence de tous ces jumeaux blonds aux yeux bleus.
Si ça se trouve, il y avait juste un cutard blond aux yeux bleus dans le coin.
Mais qui passait en vacances.
Mais c'est les jumeaux qui est étrange, c'est le fait qu'il y ait des jumeaux.
Cândido Godoy pourrait avoir été le laboratoire de Mengele, le lieu où il aurait atteint ses vieux rêves de recréer une race aryenne, blonde aux yeux bleus. C'est ce qu'explique ce scientifique argentin. Des témoins affirment que Mengele a examiné plusieurs femmes et suivi leur grossesse en leur parlant d'insémination artificielle. Mengele est mort en 1979 au Brésil et il y aurait eu effectivement un taux depuis plus inhabituel de jumeaux blonds aux yeux bleus dans cette région.
Le comble dans tout ça, dans je ne sais plus combien de temps, il n'y aura plus de yeux bleus.
Comment vous savez ça, vous?
Le métissage.
Ah oui?
La génétique va faire qu'on aura tous la tronche des bouets.
Bon, c'est pas pour ça qu'il faut dire...
C'est l'homme du futur. L'avenir, c'est ça.
Il y a une possibilité que ce soit vrai, parce que c'est quand même troublant que le plus grand manipulateur génétique, plus grand immonde salaud de l'histoire, ait passé du temps dans cet endroit-là où il a exercé sa profession et qu'on y trouve une anomalie génétique.
Mon père est gynéco, par exemple, et la plupart de ses patientes accouchent de petits métis.
C'est bizarre.
C'est un mystère, quoi.
C'est étonnant.
Ta mère doit aimer ton humour.
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
Et vous passez une belle après-midi sur Europe 1.
Il y a quelque chose d'amusant qui s'est passé sur la chaîne de télévision publique allemande. Et l'autre matin, la Miss Météo qui a présenté la météo était particulière. Pour quelle raison ?
Elle était dévêtue.
Non.
Dommage.
C'est la fille qui était particulière ou la météo ?
C'est la fille.
Attends.
C'était la présentatrice habituelle ou c'était une autre ?
C'était pas alors, oui et non.
Ah, c'était Miss Allemagne ?
Non, c'était pas...
C'était la présentatrice habituelle qui a fait quelque chose,
non,
elle a pas
accouché.
Non,
c'était pas la présentatrice habituelle du moment, ça c'est vrai.
D'accord.
C'est une chanteuse qui est venue, c'est
non.
une comédienne.
C'était un coup préparé ou ça s'est fait au pied levé?
C'était un coup préparé, et d'ailleurs...
C'était une personnalité, c'était une femme
pas
célèbre?
Pas du tout. Ah bah, les téléspectateurs la connaissaient, oui.
Mais pour autre chose, pourquoi?
Non, pas pour autre chose.
C'était... Pour la météo. C'était Madame Derrick.
Vous voyez, c'est un petit détail,
c'est
là,
drôle,
ça devient
là,
compliqué.
C'est
hein.
Là.
Alors,
qu'est-ce qui veut
dire? C'était pas la Miss Météo habituelle.
Ouais. Mais elle s'y connaissait vachement en
mais
météo.
Elle s'y connaissait en météo. Il ne la connaissait d'ailleurs pas pour autre chose que la météo. Mais en quoi c'était étonnant?
Bah, elle travaillait sur une autre chaîne, alors.
Non.
Elle était habillée d'une façon...
Oh, vous êtes à deux doigts, hein, de la bonne réponse.
C'est parce que d'habitude, elle présente le journal?
Non.
Ils se sont amusés à faire du swap, c'est-à-dire que genre, comme le 1er avril où chacun prend le poste de l'autre... Alors, il la connaissait, elle s'y
comment
connaît.
Comment t'appelles ça?
Du swap, échanger.
Tu peux pas dire échanger?
Ça s'appelle du swap.
Il est énorme.
Parce que...
Elle a raison.
Non, je veux dire pourquoi. Parce que ce type de programme a un nom en télé, ça s'appelle des programmes de swap. Par exemple, on a échangé nos mamans, le meilleur papa s'appelle du swap.
Ouais. Et dans les clubs échangistes aussi, ça s'appelle du swap.
Demande à
ce qui est vrai, en tout cas, c'est que la Miss Météo allemande habituelle qu'on voit le matin avait laissé sa place à
celle du soir.
Non. Cherchez plus amusant que ça encore.
À son
à
fils.
À sa fille.
Non.
À son père.
C'est plutôt le contraire.
À son père.
À sa grand-mère.
Alors, c'est pas
à
sa
grand-mère. À son arrière-grand-mère.
C'est... Non, c'est pas quelqu'un de sa famille, mais on se rapproche au niveau de l'âge.
À son mari.
Alors.
Ah non,
à la vieille qu'elle précédait.
Qu'elle a remplacée.
Qui l'a remplacée.
Pas celle qui l'a remplacée.
Celle d'avant. À la première de toute l'histoire de la météo.
Exactement. C'est la première Miss Météo allemande, 77 ans, qui est revenue faire la météo.
En costume nazi. Non, mais attendez, quand même, juste un mot. C'est quand même les Allemands qui ont monté la télé en France. C'est quand même. Oui. Non? Il faut quand même savoir ça.
Il y avait Max Mosley juste derrière, tu sais, il y avait Max Mosley juste derrière qui disait là c'est la pleine lune, là c'est la lune, là c'est la pleine lune, là c'est la lune.
Il disait oui, faites fouette.
Carla Vegeux, 77 ans.
Ah, une Carla aussi.
A été la première Miss Météo allemande. Et il se trouve qu'en ce moment, il y a tout un programme de sensibilisation en Allemagne sur le changement démographique de ce pays. Il y a beaucoup trop de vieux et pas assez de naissances en Allemagne.
Beaucoup trop de vieux. Ils ont des combines là-bas pour les éliminer.
Et donc, Carla Vegeux, 77 ans, est venue faire la météo. Alida Gundlach, 65 ans, est venue animer le télématin de la télévision publique. Ils avaient tous au-dessus de 60, 65 ans pour animer l'émission matinale. Ils avaient trouvé amusant d'aller chercher celle qui avait pour la première fois présenté la météo à la télévision allemande il y a 50 ou 55
c'est facile,
ans. Voilà.
En Allemagne, c'est facile de présenter la météo. Hein. C'est bonjour, il pleut.
Et il fait froid.
Et pendant une heure encore sur Europe 1, vous n'allez pas vous ennuyer, non, loin de là, puisque nous vous avons réservé le meilleur, la sélection, la crème de la crème, que dis-je, la quintessence dont va se gêner avec Laurent Ruquier.
Qui a défilé hier à l'âge de 51 ans?
Gérard Miller.
Estelle Lefébure.
Non, non, non. C'est un défilé c'est... de couture, pas ouais, défilé.
C'est Armani, Armani.
Comment ça, Armani?
Non, sur ça.
Ah non, il est plus vieux que ça, Armani.
C'est une femme.
Ah oui, là, c'est une 80 même.
Ah donc c'est un mannequin alors.
C'est un mannequin.
Un 51 ans.
Un vieux mannequin, 51 ans, c'est pas vieux non plus.
C'est une microphone pour un mannequin.
Oui, pour un
top modèle. Top modèle, c'est une microphone.
Top modèle, elle n'a jamais été top modèle.
Française.
Française.
C'est Inès de la Fressange.
Inès de la Fressange.
Inès de la Fressange. Bonne réponse de Fabrice et Jérémy.
Oh, quand même.
C'est à des mannequins en France, on en a pas 30 000 non plus, quoi.
À nouveau sur les podiums à l'âge de 51 ans, elle a défilé hier pour Jean-Paul Gaultier. Vous défilez plus, vous, pour Jean-Paul Gaultier?
Ah, non, Stevie. Non. Bah, je suis trop petit, je suis qu'un mètre 80.
C'est tout?
Bah ouais, non, mais les... quand je défilais, j'avais, tu sais que j'avais des pompes, j'avais 10 cm sous les semelles, quoi.
Tu les as pas gardées quelque part?
Non.
Mais alors, c'était, c'est un bon souvenir, les défilés,
ah,
ou pas?
Ah oui, c'est magnifique.
Ouais.
La peur de ma vie, mais.
Combien
très
de fois
sympa.
Vous avez défilé en tout?
Une fois.
Ah, une seule fois?
Ah oui, oui, une seule fois.
Et collection homme ou femme?
Bah écoute, mixte, hein, tu sais, Jean-Paul Gaultier.
Chez Jean-Paul,
c'est très...
on sait jamais.
Tu avais le trac? Oui, bah j'avais peur, en fin de compte, Jean-Paul, quand tu commences à défiler, il est juste devant, et puis il pousse les mannequins. Allez, c'est à toi, vas-y, vas-y.
Et comment il peut être juste devant et pousser?
Non, mais si tu veux, t'as l'entrée du podium, il est juste à l'entrée, puis il pousse les mannequins, il regarde une dernière fois, il ajuste, et après on ouais. défile, hein, voilà. Et c'est très très impressionnant en fait. Ça paraît pas comme ça, mais les chocottes, parce qu'il y a la presse internationale.
Il faut pas sourire, hein, c'est ça.
Il faut pas sourire, mais moi quand je suis arrivé au bout, il y a tous les photographes. Hey, Stevie, regarde-moi là.
Et forcément, t'as un sourire.
Non, j'avais la marinière, parce que dans la collection Gaultier, il y a toujours une marinière, ouais, et j'avais l'honneur de la porter cette fois.
Et quand tu dis la marinière, ça correspond à quoi?
La marinière.
Pas des moules dans les filets de Gaultier.
Quand on défile avec la CGT, est-ce que
on doit être toujours très mal habillé?
Faut jamais qu'on sourie
non plus, faut qu'on soit très mécontent.
Ah oui, faut pas sourire non plus.
Faut pas sourire dans les manifestations. Non, c'est pas vrai. Il y a peu d'endroits. Écoutez, je ne sais pas qui a fait des manifestations ici, mais je suppose pratiquement tout le monde. Mais à part Stevie, si il a fait une fois avec moi. Quand on est allé au théâtre, je lui ai montré une manifestation. Il a regardé ça. Oui, ça l'a surpris beaucoup.
On était sur ton scooter d'ailleurs.
Et je connais peu d'endroits aussi agréables.
Vous preniez Stevie sur votre scooter. Sœur Emmanuel.
J'étais collé à lui. J'étais pétrifié.
Sœur Emmanuel, c'est plus sûr que Stevie. Quand même.
Allez, écoutez, ils étaient tous les deux accrochés à moi exactement de la même façon. Et Stevie, après, on jouait au théâtre.
Sœur Emmanuel, elle vivrait même quand le scooter n'avançait pas.
Et Stevie, on allait ensemble au théâtre à l'époque où on jouait votre pièce, Laurent. Et c'est vrai que la manifestation est passée juste devant les variétés.
Ouais, moi, la seule manifestation que j'ai faite, c'était la Gay Pride. T'avais raison, Fabrice.
Ah, il y avait que vous?
Ah non, non.
Parce que ça se confirmerait, alors.
Mais j'ai déjà fait la Gay Pride plusieurs fois, moi-même.
Ah, j'en étais pas homo.
T'étais déguisé en quoi? En rien du tout. C'est un lieu extrêmement...
Il était en Rihanna.
La Gay Pride.
Pourquoi en Rihanna?
Ça le fait rire, ça, Stevie.
Ah ouais, parce que c'est make-upé, c'est le chaussure avec des talons à n'en plus pouvoir.
C'est make-upé.
Make-upé, maquillé, oui. Fossilisé et tout. Ah non, mais je trouve ça génial.
Vous avez eu le papier sur Madame Chirac aujourd'hui dans Libération?
Ah non?
Hein, il nous raconte un peu sa vie après l'Élysée, que c'est pas facile avec le chien Sumo qui a mordu le président parce qu'il fait une dépression. Il est sous antidépresseur, hein, Sumo, le petit bichon maltais. Mmh. Non, c'est assez tristouné, hein, de lire tout ça.
Il devrait l'envoyer en thérapie chez Miller, le clébard, pour voir.
Vous faites
ça existe, hein.
Non, mais Chirac pourrait venir en thérapie, pas chez moi forcément, mais chez quelqu'un, parce que j'ai vu la façon dont il s'occupe de son chien, c'est délirant. Le chien dort avec eux, il est littéralement le maître de la maison, ce chien.
C'est un maître de meute, chef de meute.
À 75 ans, l'ex-première dame de France soigne son bichon dépressif, écrit Libération. Elle se pose en vedette des plateaux télé, elle est devenue people.
Certainement que Bernadette aimerait que son chien mue la queue autant que son mari.
Elle
son
est
âge.
Plus people que Jacques Chirac. Elle est plus présente, en fait, Bernadette, que l'ex-président de la République.
Bah,
c'est vrai.
Ne serait-ce parce qu'elle s'occupe de la maison de Solène, des pièces jaunes, donc elle a peut-être plus de raisons d'être sur les plateaux que son mari, non?
Heureusement qu'elle est là, écrit Jean-Dominique Mercher dans Libération. Sans elle, le nom des Chirac serait presque déjà voué à l'oubli. Jacques, on ne le voit plus. Il a eu 76 ans en novembre dernier. S'occupe de sa fondation entre deux numéros de duettistes au Conseil constitutionnel avec son vieil ennemi. Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, quant à Madame Chirac, on la rencontre partout, au défilé Chanel, elle reçoit la Légion d'honneur, elle s'enthousiasme pour Hillary Clinton, elle raconte que Rachida Dati allaite son bébé, elle fait encore des réunions en Corrèze, mais sa principale préoccupation, du moment. Son souci, c'est Sumo, le bichon maltais qui doit peser dans les 4 kilos. Beaucoup, faut-il hein le piquer, s'interroge Libération.
Ouais, c'est mieux.
N'y pensons pas, car l'ancien président adore son bichon maltais, un cadeau du petit-fils Martin à ses grands-parents. L'animal déprime, il avait les 2 hectares du parc de l'Elysée pour s'ébattre.
Et puis il y a David Douillet qui dort dans son panier tous les soirs, qui est dégoûté.
Et aujourd'hui, il est dans un petit appartement sur le quai Voltaire. Ah, comme c'est triste, ce chien pris d'accès de frénésie qui se met brusquement à sauter en l'air sans qu'on sache pourquoi.
Je veux pas faire de la psychanalyse sauvage, mais vous remarquerez que vous remplacez Bichon par Chirac, et c'est exactement l'état d'esprit du président actuellement. Quand Madame Chirac parle de son chien, c'est évident qu'elle parle de la dépression de son mari. Elle dit d'ailleurs très récemment que on sait bien que chez les hommes, tout particulièrement, la retraite conduit parfois un petit peu plus vite à la mort. C'est évident que le président va très mal. Il faut que vous l'invitiez comme chroniqueur dans cette émission.
On a déjà parlé.
Il était mieux quand il avait plus de place
mais,
dans le jardin.
Mais faites-le.
Attends, ils ont un château, le chien, ils peuvent l'emmener là-bas, en Corrèze.
Au château de Biti.
Oui. Oui.
Mais c'est vrai, c'est pas bête ça. Quand même, il faut le soigner. Parce qu'il y a un psy pour chien, enfin une sorte de comportementaliste, hein, on dit dans ces cas-là, animalier, qui explique que ce qui s'est passé est typique d'une agression hiérarchique quand Sumo a mordu le président. Sumo doit avoir environ 9 ans, donc il a ses petites habitudes et il peut être irritable. À cet âge, il n'y a plus grand-chose à faire. On ne peut plus le rééduquer. Il le dit, le comportementaliste, il est allé chez les Chirac, il a déjà vu le chien s'inviter à table, dormir dans le lit de ses maîtres, s'attaquer à la garde-robe de Madame Chirac, dévorer les livres rares de l'Elysée. Vous vous rendez compte ? On disait que Chirac n'avait pas de livres. Non, c'est parce que le chien avait tout
bouffé. Les mains, il dévore.
c'est assez pathétique, hein, quand même.
Et puis les petits chiens, plus c'est petit, plus c'est con. Les grands chiens sont gentils en vieillissant, mais plus c'est petit, plus
c'est
con.
Comme Michalak,
regarde Juju. Parfois il me saute dessus, il a un comportement.
Oh, je t'ai pas souvent mordu quand même. Hein. Non, mais c'est pas bien de le prendre en traité de jambes.
Non, j'ai déjà vu avec ton écharpe, tu sais, entre les dents comme ça, oh, énervé. Hein. C'est Juju ça.
Puis quand il lève la patte.
T'attends.
Là,
quand... Tes petits jouets qui font pouet-pouet.
L'autre fois, je te jure, je l'ai vu, il t'attendait Laurent. Il avait des écharpes comme ça, ton manteau, il reniflait. Il est où Laurent ? Il est où Laurent ?
Et quand j'ai joué au squash avec lui, je jouais pas tout à fait normalement. Va chercher la babaille.
Et ben, il allait la chercher. Vous jouez au squash ensemble.
Avec Juju, ouais.
Ce qui est extraordinaire avec Juju, c'était le Stoll qui ramasse ses crottes lui-même dans la rue.
C'est vrai.
Des fous rires, plein de fous rires sur Europe 1, c'est tous les après-midi jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier. Et là, en plus, écoutez bien, c'est le meilleur.
Que va-t-il se passer à Coulommiers à partir du 4 février prochain?
On va faire le plus gros camembert.
Non, c'est le Coulommiers.
D'abord, camembert, c'est pas du Coulommiers.
Non, du Coulommiers,
oui,
c'est
enfin, la même. C'est la même forme.
Coulommiers, on fait du Coulommiers, quoi.
C'est en rapport avec le fromage ou pas?
Pas du tout.
On va inaugurer quelque chose.
Ah, en quelque sorte.
Ah, le musée du fromage.
Non plus.
Il y a pas une entreprise, une nouvelle usine.
Il y a pas
une
usine.
Non.
Est-ce que c'est une expérience?
Oui, c'est une expérience.
On va expérimenter quelque chose qui, si ça marche, sera développé dans toute la France.
Effectivement.
Internet, l'accès gratuit à Internet.
C'est le passage
la fusée Ariane, je l'ai lu.
C'est le passage au tout numérique de la TNT. C'est la première ville en France qui va être équipée intégralement au numérique.
Excellente réponse de mon joujou, Jérémy Michalak.
Mis sur la piste par moi. Bien, Michel.
Tiens ta croquette.
J'espère que tous tes amis écoutent aujourd'hui.
Putain, c'est l'humiliation publique en fait.
Tu l'as la belle clochard.
Ce que j'adore, c'est que tous les gens, souvent les gens nous demandent est-ce qu'ils vont coucher pour passer à la radio. Là, c'est vraiment couche-panier, toi, pour réussir.
La TNT, la télévision numérique terrestre, va occuper 94% des foyers. Foyer columérien, ça veut
Coulommiers.
Dire de Coulommiers, hein, Stevie. Et c'est la première ville qui va basculer numériquement. Il y aura plus de diffusion analogique à Coulommiers à partir du 4 février. Je sais pas ce que ça veut dire la diffusion analogique, mais enfin vous allez m'expliquer.
Ça a l'air bien.
Je savais même pas qu'ils avaient la télé, moi, à Coulommiers.
Europe 1, on va se gêner. La question, citation.
Qui
a dit quoi?
Toi.
Qui a dit « La crise signe l'échec de l'individualisme ». Ça, c'est une belle formule, une belle phrase, rapide, courte, concise.
J'ai envie de dire Besancenot.
Non.
C'est un Américain ?
C'est quelqu'un de droite, au contraire.
Alors, c'est pas forcément quelqu'un ni de droite ni de gauche.
C'est
alors,
c'est Bayrou. Même si on
c'est
sait pas qui
pape. C'est le pape.
C'est Bayrou.
On peut dire que ça a été influencé par Ségolène Royal.
Non, la en crise. Général, est... La crise signe l'échec de l'individualisme.
C'est l'ecclésiastique et c'est l'évêque de Paris.
Non, mais il y a un aspect religieux là-dedans, c'est vrai.
Est-ce que ça ne serait pas le Dalai Lama?
Pas le Dalai Lama.
Jésus.
Mais
Jésus.
Jésus. Jésus qui reviendrait puis
Moïse, la crise.
Mais un
c'est
qui
un musulman.
C'est pas un musulman.
Comme le Dalai Lama.
Vous avez vu comme j'ai dit, pas le Dalai Lama.
Ah, c'est un ecclésiastique.
Son porte-parole, Monsieur Ricard.
Mathieu Ricard. Bonne réponse de Gérard Miller, effectivement. Le moine bouddhiste scientifique, le beau-fils de Claude Sarraute, oui. Traducteur français du Dalai Lama, il le dit, la crise signe l'échec de l'individualisme. Mon message, c'est d'avoir une vision plus altruiste des choses. Vous êtes d'accord avec
mais
ça,
je suis tout à fait d'accord.
Vous êtes un peu bouddhiste, en fait, vous-même.
Oui, c'est ça, bouddhisto-communiste. Oui, c'est voilà. Ça.
Bouddhisto-communiste.
Ah, mais... le cumul. Ah,
c'est évident, cette phrase est évidente.
Je te vois en toge, place du colonel Fabien.
Bouddhisto, ça fait un peu barre chocolatée.
Mais c'est une phrase, dès l'instant où c'est une personne comme ça, impliquée ou quoi, qu'il a dit, ça fait une phrase bien pensée, mais c'est simple comme tout, quoi.
Ah oui, vous auriez pu le dire, par exemple?
Bah, franchement, c'est assez évident de penser que l'individualisme fausse tout et met le bordel, non? Non, c'est pas pareil comme phrase.
C'est pas pareil.
Mais ça, c'est l'individualisme, la crise signe. C'est quoi déjà la phrase? la fin de l'individualisme. C'est tellement évident de dire qu'il faut partager que, voilà.
Le Dalai Lama, il parle quoi, allemand?
Non.
Pourquoi vous dites ça?
Bah, il met des chaussettes avec ses sandales, non?
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
Pourquoi parle-t-on beaucoup dans la presse de l'histoire de Basile, le crocodile qui doit se brosser les dents?
Est-ce que ça a à voir avec les dents des enfants?
Pas du tout.
Ça n'a rien à voir avec
les dents. Ah, il vient remplacer la souris?
Pas du tout. Ça a à voir avec les dents des enfants, un peu forcément, mais enfin, c'est pas
les dents de lait.
C'est pas ça.
C'est un livre.
C'est un livre. Ah. L'histoire de Basile, le crocodile.
Ah, c'est pas le livre de Madonna ou de J.K. Rowling?
Le livre de Madonna. Madonna.
Oui, parce qu'elle fait des contes pour enfants maintenant, Madonna.
Bien sûr, elle fait.
Ah oui.
Ou Marlène Joubert.
Joubert.
Joubert, c'est le.
C'est le patineur.
C'est un livre de contes pour enfants?
Alors, c'est un livre pour enfants, ça, c'est vrai.
Qu'a acheté une personnalité?
Non.
Pas fait réalisé par une personnalité.
Parce qu'ils en ont vendu beaucoup.
Alors, j'espère qu'ils vont en vendre beaucoup, mais c'est pas ça.
On connaît la personne qui l'a écrit?
Alors, vous connaissez. Non.
La préfacière.
Non, mais vous allez la connaître, d'ailleurs, parce qu'on va l'avoir au téléphone dans un instant.
C'est un conte pour enfants en braille.
Pas du tout.
C'est le nouveau truc de pour la santé bucco-dentaire. C'est ce qu'on va donner à l'école pour inciter les gamins
à se brosser les dents. Est-ce que les ventes. Est-ce que l'argent récolté pour les ventes seront donnés à une œuvre humaine?
Non, c'est parce que l'auteur a 9 ans.
L'auteur a 9 ans, putain, bonne réponse de Fabrice Eboué.
Je t'ai un peu aidé quand même. Ouais, tu m'as aidé.
Voilà pourquoi il y avait écrit 9 dans le titre que Titoff avait vu. Et nous avons la jeune fille Perrine Arnaud au téléphone. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Je peux te tutoyer peut-être. Hein. C'est ton premier livre, Perrine?
Oui, qui est édité, parce que j'en ai fait d'autres, mais ils n'étaient pas édités.
Alors ça raconte quoi, l'histoire de Basile, le crocodile qui doit se brosser les dents?
Ben, c'est un crocodile qui a plein de dents, mais il veut se brosser les dents, et puis après il peut pas faire des trucs. Et puis un jour, et ben, y a un oiseau qui vient, et il lui dit qu'il peut l'aider en picorant ce qui reste.
Ne nous raconte pas la fin. Hein.
Comment tu as réussi, Perrine, à être édité, publié?
J'ai appelé des éditeurs et puis Monsieur Lacour il m'a donné un rendez-vous et pour m'encourager il m'a édité un livre.
Tu t'es présenté sans bafouiller, que tu as simplement dit à l'éditeur que tu avais écrit un livre, que tu souhaitais lui en parler et apparemment il a trouvé ça très bien écrit et très cohérent et il s'est dit il faut la signer. Et tu as signé un contrat pour 3 ans, c'est ça?
Au niveau du style littéraire, c'est plus naturaliste. Qu'est-ce que tu as essayé de faire?
N'écoute pas Fabrice Eboué qui est un méchant personnage, mais Gérard Miller qui a l'habitude de parler aux enfants puisqu'il est psy. Gérard a sûrement des tas de questions à te poser.
Oui, alors est-ce que tu as imaginé ce crocodile comme ressemblant à un des crocodiles que tu voyais au zoo ou bien tu as complètement inventé ce personnage?
Oh, super question.
Je l'ai inventé.
T'as l'impression qu'il ressemble à un vrai crocodile ou pas?
Je sais pas, non.
Et tu as l'impression que les questions de Gérard Miller sont bien ou pas? Ou ça te...
Périne, maman est près de toi. Tu dois lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi.
Périne, n'écoute pas Fabrice. Est-ce que ça veut dire...
Je sais pas qui c'est, Claude François.
Est-ce que ça veut dire que tu as envie d'être écrivain plus tard?
Oui.
Ouais.
Est-ce que t'as des bonnes notes en français?
Oui.
T'es première de ta classe?
Non.
Non?
En tout cas, tu écris depuis l'âge de 5 ans.
Oui.
Est-ce que Stevie, tout à l'heure, quand il disait que c'était pour l'hygiène bucco-dentaire, il était finalement pas si loin de la réponse, c'est-à-dire que c'est aussi un livre éducatif qui incite les enfants à se brosser les dents plus régulièrement?
Ben oui.
Combien de fois par jour on doit se brosser les dents, Périne?
3.
Bravo, Périne.
Et Périne, est-ce que tu as vérifié pour l'édition et le pourcentage sur les ventes?
C'est Réjeanne, sa maman, qui s'occupe de ça, hein, bien sûr.
Est-ce qu'il y a
une... Non, c'est ma sœur.
Ah, c'est ta sœur, Réjeanne.
Et elle a 7 ans et demi.
C'est la comptable de la famille.
C'est la comptable de la famille. On va pas t'embêter plus longtemps, on salue en tout cas.
Elle qui fait les dessins. C'est ma sœur.
Ah, c'est ta grande sœur qui fait les dessins, d'accord.
Voilà, génial.
Ah, elle fait les dessins, ta sœur?
Oui.
C'est quelque chose de familial. Alors.
Avec ça, papa, il a acheté une Porsche.
Est-ce qu'il y a une morale dans ton livre?
Ah, quelle est la morale du livre, demande Stevie?
Ben, il n'y en a pas.
Est-ce que tu connais Stevie?
Non.
Est-ce que tu connais l'histoire du surfeur qui va en Afrique? Il veut traverser une rivière. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait plein de crocodiles dans la rivière. Et il demande à un monsieur qui habite à côté de la rivière, est-ce que c'est vrai qu'il y a des crocodiles, je veux faire du surf. Et lui, non, vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque, ils ont tous été bouffés par les requins.
Et alors?
C'est une blague pour les enfants.
Alors, je vais te dire, ni pour les enfants, ni pour les adultes.
Là, pour l'instant.
Aucun de vous ici n'a d'enfants, c'est ça le problème. Je suis le seul à avoir des enfants autour de cette table.
Périne, on t'embrasse, on te remercie.
Tu sais pas comment ils appellent.
Et tu vois, la concurrence de Fabrice Eboué n'est pas prête d'ébranler le succès de ton livre. L'histoire de Basile, le crocodile qui doit se brosser les dents. Tu peux peut-être rappeler le nom de l'éditeur?
Christian Lacour.
Aux éditions Lacour, on t'embrasse Périne, merci d'avoir répondu si gentiment à nos questions. La pauvre.
Ça sera un bon souvenir.
Europe 1, on va se gêner. La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon mes chroniqueurs sont des cons.
Où 500 000 euros de bijoux, colliers et parures ont-ils été dévalisés?
Cécilia Attias.
C'est-à-dire?
Chez elle.
Dans les Hauts-de-Seine, chez elle, à Neuilly-sur-Seine.
Bonne réponse de Fabrice Eboué. Un cambriolage a eu lieu dans l'appartement de l'ex-première dame de France. 500 000 euros de bijoux, colliers, parures au domicile des Hauts-de-Seine. Faut pas laisser autant de bijoux chez soi, surtout quand on
n'y vit plus. Surtout quand elle n'y habite pas, ouais.
Voilà. Parce qu'elle vit, nous rappelle-t-on, à Dubaï, hein, c'est ça, avec son nouveau mari Richard Attias. Elle est pas souvent à la maison. Et je savais même pas, d'ailleurs, le petit Louis, en fait, est scolarisé là-bas.
À Dubaï, ouais. Franchement, moi, je savais même pas qu'on pouvait avoir 500 000 euros de bijoux. Alors.
Si, quand même, 500 000.
Bah non, c'est imprudent. Moi, au-dessus de 300 000 euros, je laisse jamais rien chez moi.
C'est comme à la plage, dans ma serviette, je laisse jamais 300 000 euros quand je vais me baigner.
Ah, vous faites attention, ça. Ça, c'est vrai qu'on a toujours la trouille quand on va se baigner de laisser quelque chose sur le sable.
Ah, moi, je laisse même pas ma serviette, alors.
Moi, je regarde au loin, on est là, bien toujours.
Moi, je laisse ma femme en espérant qu'on me la pique, mais bon, ça marche jamais.
J'y vais pas. Femme,
mais qui vous allez faire croire ça?
Il essaye de la placer à toutes les sauces,
quoi. Jusqu'à 18h, vous allez en entendre parler.
Depuis tout à l'heure, il essaye de placer femme. Femme.
Non, je suis pas pédé avec le patron.
Déjà, je vous jure, t'es interdit sur les plages.
il peut pas aller à l'hôtel, Joujou, c'est interdit. Aux
en tout cas, on parle beaucoup d'elle, hein, Cécilia, encore. Mais c'est une ex-première dame de France, toujours très très présente, puisqu'elle fait
la une c'est pas de sa faute, là,
de beaucoup de magazines. Là, évidemment, elle aurait préféré ne pas être.
Qu'on sache pas qu'elle avait tout ce pognon.
Cambriolée, et ne pas qu'on sache peut-être aussi qu'elle. Oh, ça, je suis pas sûr que ça la gêne. Je crois qu'elle est plutôt du genre à assumer.
À assumer le fait qu'elle devait autant de bijoux.
À 500 000 euros, vous pas.
Mais tu sais que si elle a des 500 000 euros, c'est pas si énorme que ça.
Oui, il y a qu'à dire ça pendant que les gens manifestent.
Faut comparer. Tu sais que t'as certaines pierres qui valent presque 1 million d'euros. Certaines pierres. Non, mais voilà.
Enfin, tout le monde n'a pas 500 000 euros de bijoux.
Évidemment, c'est vrai.
500 000 euros, c'est quand même énorme, Stevie.
C'est énorme.
C'est quand même 2 mois de salaire pour nous, je veux dire.
Attendez, on rectifie. J'ai pas dit que c'était pas énorme. J'ai dit qu'il y avait peut-être pas tant de bijoux que ça. Parce que les bijoux, ça coûte très cher. Et les pierres, surtout, coûtent très cher. 500 000 euros, c'est peut-être 4 parures.
avec 5 paires de boucles d'oreilles.
Ouais, 2-3 strings, un col roulé. Je vais dire des escarpins, ça va vite 500 000.
Entièrement.
Pour un peu qu'il y ait un manteau en cachemire, je vais suivre 500 000 euros. Bon, moi, je vois, j'ai du mal à joindre mes deux bouts, tu vois, quand on est plusieurs.
Non, mais tu sais que c'est quand même un monde.
Pourquoi vous en avez beaucoup, vous?
Ah non, j'en ai pas beaucoup, moi.
Non, moi, j'en achète plein, ma meuf.
C'est surtout ces bijoux de famille.
Ah non,
vous
faites
chier. Et vous-même, vous êtes une femme à bijoux. Regardez, elle ne dit rien, mais regardez les jolies boucles d'oreilles de Michel Bernier.
C'est un cadeau de mes amis.
Est-ce que tu mets la petite chaîne aussi autour de la cheville ou de la hanche, tu sais?
Alors non, de la hanche, j'ai pas trouvé de chaîne assez grande.
Alors si tu veux, j'ai la chaîne de mon scooter qui est garde.
Là, c'est Bricoman, il y en a.
Et de la cheville, je trouve que ça fait un peu taspé, non?
Oui, oui.
Non, ça fait lesbienne.
Non, Joujou, il en a un.
Ah oui.
Oh putain, t'as des piercings ou pas?
Des piercings? Ouais. Non.
Comment ça s'appelle? C'est africain autour de la hanche? Ça s'appelle le. Je me rappelle, j'ai oublié.
C'est
le nom.
Africain.
C'est quoi une chaîne?
C'est un truc africain, tu vois, quand tu mets la chaîne.
Ça y est, tu parles de chaîne tout de suite, c'est l'Afrique, quoi.
Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge!
Auditeur contre chroniqueur.
Anna, vous nous écoutez depuis Rungis. Bonjour Anna.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites à Rungis, Anna?
Je suis graphiste freelance.
Graphiste freelance, c'est
oui.
ça?
Oui.
Bah, t'es au chômage, quoi.
Pas du tout, je travaille. Mais je vous écoute toutes les après-midi et je me marre.
Ah, bah, c'est gentil. Merde. On aime beaucoup les filles de Rungis, même si certaines sont des cajots, évidemment.
Oh. Elle est bonne.
Vous avez un petit peu d'apprendre.
Elle est très bonne.
C'est le patron.
C'est le pilote.
Vous avez un petit message à faire passer, Anna?
Oh non, juste.
Ah ouais, par rapport au marché de Rungis, si vous voulez dire.
Anna, un petit message à faire passer?
Moi, je voulais vous dire, je vous adore, vous me faites vraiment beaucoup rire.
C'est
voilà.
Gentil.
Et un chouchou, est-ce que t'as un chouchou?
Oui, Christine et Fabrice.
Merci Anna.
Merci Anna. Anna.
Cédric n'aura peut-être pas le même avis depuis Bourgoin dans l'Isère. Bonjour Cédric.
Bonjour à tous. Salut, bonjour Cédric. Laurent.
Qu'est-ce que vous faites vous?
Moi je suis conseiller commercial.
Conseiller commercial.
Je trouve que c'est un métier génial. T'as un chouchou ou pas?
Peut-être vous avez regardé la cérémonie d'investiture de Barack Obama la semaine dernière et on apprend qu'un pompier américain, membre d'une fanfare de l'Ohio, vient de se faire suspendre. Vient. Non mais.
Suspendre.
Tu vois quoi?
Mais rien.
C'est suspect, ouais. Mais un pompier, hein.
Pas un mec déguisé.
Non. Il est bien musclé, hein.
Il a été suspendu pour 6 mois, ce pompier, parce qu'il a fait quoi pendant la cérémonie d'investiture?
Bon, est-ce qu'il est blanc?
On peut importe.
Il a fait sonner la sirène.
Non.
Il a parce qu'un pompier se promène
une cigarette dans un coin et.
Non, mais il était là pendant la cérémonie d'investiture.
Et il devait faire un truc qu'il n'a pas fait.
Il faisait partie de la fanfare de l'Ohio.
Est-ce qu'il a fait quelque chose ou est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose?
Est-ce qu'il a fait un geste?
Oui.
Il a salué le président.
Il a salué le président américain Barack Obama et c'était interdit. Bonne réponse. Bravo Anna.
Bravo.
Merci.
6 mois de suspension. En effet, le meneur de la fanfare des pompiers de Cleveland a indiqué que même un simple coup d'œil en direction du nouveau président aurait été déplacé. Et ce pompier, lui, il a fait plus que regarder le président. Il l'a salué d'un petit geste amical. Et ça, c'était interdit. Et il le dit d'ailleurs, John Coleman, c'est son nom. Il dit, se trouve que j'ai jeté un œil et eu un contact visuel avec le président. J'ai juste fait un signe de la tête et un petit salut de la main. Suspension de 6 mois.
Je savais que c'était un fumier Obama.
Alors qu'en France, Sarkozy, il y a des pêcheurs qui le traitent d'enculé, il leur arrive rien. Enfin.
C'est différent, un blanc n'a pas à saluer un noir, c'est tout. Il y a un noir qui a
respecté. Exactement. Non, mais c'est le protocole, hein. En fait, c'est pas le président qui s'est plaint. Ce sont d'autres fanfares qui se sont plaintes du geste du pompier de l'Ohio.
C'est des jaloux.
Voilà. Et il s'est vu notifier sa suspension dans le bus qui le ramenait de Washington. Hein. Aussitôt,
Mais t'imagines un peu que quand même, il y a eu le 11 septembre avec des centaines de pompiers qui sont morts dans les tours. Non, mais franchement.
Non, mais c'est vrai.
Et la première chose que fait l'autre, Obama, c'est suspendre un pompier.
C'est pas Obama qui l'a suspendu.
Oui, mais enfin, il devrait lever la suspension si c'était un homme.
S'il nous entend, Barack.
Voilà.
If you listen, us. Mr. Obama.
Vas-y, dis suspend maintenant.
Can you suspend?
C'est sac suspens. Et pendre, c'est eng. Sac eng.
Rapidement, c'est coq.
Can you stop this punishment, Mr. President? On vous embrasse, Anna, et vous aussi,
merci
Cédric.
Moi. Merci.
Je vous souhaite une belle après-midi à l'écoute d'Europe 1, normale, pleine d'éclats de rire, grâce à Laurent Ruquier.
J'ai une autre question qui n'a plus rien à voir avec la politique. Celle-là, ça se passera au Maroc. Ça se passera d'ailleurs au printemps au Maroc. Au printemps prochain, il y aura un nouveau rallye, une sorte d'aventure raide, comme on dit. Mais un rallye réservé à une catégorie de personnes.
Oui, les gazelles, c'est les femmes.
Non, c'est pas les femmes, justement. Il y a effectivement le rallye des gazelles.
Les 4L, c'est les 4L.
Non, là, ce sera la première fois qu'une certaine catégorie...
De personnes.
De personnes.
Handicapées?
Non.
Le Paris-Dakar, mais au Maroc?
J'avais pas pensé à ça.
Le premier Adventure Raid, c'est le
jeune
nom.
Jeune?
Non, non.
Vieux? Vieux.
C'est-à-dire?
Des seniors.
Troisième âge?
Troisième âge, peut-être pas, mais uniquement plus de 50 ans. Il faudra être senior actif pour participer à ce rallye. Uniquement les plus de 50 ans. Bonne réponse de Christine, bravo.
Dans les seniors, maintenant.
Et ça va s'appeler le Baby Boomers Adventure.
Et ça consiste en quoi ce rallye? C'est quoi? C'est de la voiture?
Les dents d'ambulateur dans le sable, ça va être compliqué peut-être.
Non, c'est une sorte de rallye, comme il y a le rallye des gazelles effectivement pour les femmes. Là, c'est le rallye pour les seniors. Il faudra débourser 3 600 € si vous voulez y participer, Christine, puisque vous pouvez. Ça, oui, ah bah vous avez plus de 50 ans.
On va attendre avec Benichou.
3 500 € pour se faire appeler senior, merci bien.
Ah ouais, c'est vraiment nul.
Ça, c'est vrai. Seigneur du désert. Qui a fait le rallye des gazelles déjà, non? Jamais, Christine?
Moi, j'ai failli, mais je me suis extirpée de l'affaire au dernier moment.
Pourriez, Christine, être copilote?
Pas mon truc.
Non, c'est pas votre truc.
Elle part avec Benichou, et vous marrez tous les deux. J'imagine l'ambiance.
À droite, non, à gauche. Non, mais quel connard!
Il va vouloir s'arrêter boire des coups sur le bord de la route.
Ou avec Claude Sarraute, ce serait drôle. Ah ouais. Claude Sarraute et Pierre Benichou dans le rallye des seigneurs.
Allez, on va faire de la varap, ça va être bien.
Là, je vous emmène en Angleterre, parce que c'est un journal qui s'appelle The Daily Telegraph, qui nous apprend que l'Agence nationale pour la sécurité des patients, qui vient de s'apercevoir que certains chirurgiens, devraient s'entendre, parce que certains font une chose qui est différente d'autres chirurgiens. Il faudrait que tous décident de la même chose.
Sur les tarifs?
Non. Quoi? Donc, parce que ça pourrait finir par être très dangereux.
Sur une manière de procéder?
Oui, une manière de procéder.
Il y en a qui se lavent les mains, d'autres non.
Non.
Il y en a qui coupent que les bras droits, d'autres bras gauches.
Non, c'est, ils font quelque chose différemment, quoi.
C'est-à-dire qu'ils devraient tous faire la même chose et tous ne font pas la même chose.
C'est une question d'hygiène?
Pas d'hygiène.
C'est une question de produits utilisés?
Non plus.
D'anesthésie?
Alors, peut-être qu'il faudrait que vous trouviez quelle catégorie de chirurgien est concernée déjà.
Esthétique?
Non.
C'est pour les yeux?
Non.
Proctologue?
Sont plutôt des. C'est un mot avant chirurgien, en fait, qu'il faut trouver des...
Docteurs?
Des messieurs?
Des messieurs?
Des hommes?
Des messieurs chirurgiens?
Des messieurs chirurgiens, des...
Avant chirurgien?
Oui, c'est de la chirurgie.
C'est des dentistes?
Non, ce sont des...
Des bons chirurgiens?
Des bons chirurgiens. Ils sont tous bons chirurgiens.
Ah non, des vrais chirurgiens.
Tous sont des bons chirurgiens, mais ils n'ont pas la même façon de pratiquer.
Des anesthésistes?
Et effectivement, l'Agence nationale pour la sécurité des patients demande qu'il y ait une sorte de procédure standard, ouais, en quelque sorte.
Mais est-ce que cette absence de procédure standard, c'est dangereux?
Oui. Mais peut-être si vous trouvez, effectivement...
Ah, le cheveu?
Non, ah, mais on se rapproche de la zone.
Ah, c'est la tête.
Le cerveau.
Il y en a qui opèrent...
Neurochirurgiens. Merci Fabrice Eboué, merci.
Oui, bravo. Alors,
effectivement, il s'agit de neurochirurgiens, de chirurgie crânienne, donc. Et là, il y a une procédure standard qui n'est pas adoptée.
Ah oui,
c'est dans la trépanation.
Non.
Voilà, non. Il y en a qui opèrent avec sous anesthésie et d'autres non. Voilà.
Non.
Il y en a qui rasent la tête et d'autres non.
C'est avant d'opérer que ça se
passe. Raser la tête.
Non, c'est dans le choix des instruments?
Non. Ah, juste avant d'opérer, certains chirurgiens font quelque chose et d'autres...
Ils vont pisser.
Non.
Ah, c'est par rapport au badigeonnement à la bétadine, en fait.
Ça pourrait d'ailleurs, parce que enfin, en tout cas, ça implique ça après.
C'est la façon de pas d'anesthésier, comment dire, mais de stériliser.
Non,
de dessiner sur la tête les zones à opérer.
Ah, bravo. Alors,
il y en a qui dessinent les
des conneries.
Il y en a qui font des dessins de Toto, la tête à Toto.
Alors là, ça devient très intéressant parce qu'on est tout près de la bonne réponse.
Alors voilà.
C'est lié effectivement.
Au stylo, ils n'utilisent pas le même.
Alors, ils font tous un dessin.
Voilà. Oui,
sur la zone.
Il y en a qui font des pointillés et il y en a qui font des traits.
Il y en a qui prennent des trucs indélébiles. Non. C'est horrible.
C'est là où ça devient intéressant. D'ailleurs, c'est très grave.
Il y en a qui se prennent pour Picasso et ça fait n'importe quoi.
Non,
du coup,
non. Vous allez voir, c'est dingue parce que j'imaginais même pas que c'était possible. Certains.
Oh, il y en a qui dessinent des bites. C'est pas vrai.
Il y en a qui ne dessinent pas.
Elle est belle, la dessine.
Il y en a qui ne dessinent pas.
Tous dessinent. Tous les chirurgiens dessinent.
Alors, il y en a qui dessinent où est la tumeur et il y en a qui dessinent où est la zone saine.
Exactement. Certains chirurgiens dessinent du côté là où il faut opérer et d'autres dessinent là où il faut pas toucher.
Ah, mais c'est pas une petite erreur, ça.
C'est horrible.
Voilà, exactement.
Ça dépend, si c'est le cerveau de Stevie, ça change rien.
L'Agence nationale pour la sécurité des patients tire la sonnette d'alarme. Un audit a montré que, faute de procédures standards en chirurgie crânienne, certains services de neurochirurgie utilisent le marquage au stylo pour indiquer le côté à opérer, tandis que d'autres utilisent le stylo et le dessin pour indiquer le côté à ne pas opérer. Et évidemment, il faudra qu'ils finissent par s'entendre.
Ah oui.
Parce que il va y avoir un malheur un jour.
C'est possible. Enfin, ceci dit, moi, une fois, j'ai vu un kiné. C'était à Saint-Tropez. Je m'étais fait mal en jouant au volet l'après-midi. Je m'étais déplacé derrière, enfin, des cervicales. Et on m'envoie chez un kiné. Et on m'avait rien dit. Et moi, on m'avait pas dit qu'il était aveugle. Et ça m'est réellement arrivé. Donc j'arrive, bonjour. Déjà, je le trouve un peu bizarre.
C'était pour surprise.
Et je m'assois, il me dit, asseyez-vous. Et je m'assois en face de lui. Il me touche le nez, comme ça. Je lui dis, non, excusez-moi, j'ai mal à la nuque, hein. Et il était réellement aveugle. Un bon kiné. Mais c'était un aveugle.
Non, mais enfin, en tout cas, ça fait peur, hein, cette idée que quand même, ils ne sont pas d'accord sur, je sais pas si en France, il y a une procédure standard. Ce serait quand même intéressant de savoir si, montrez votre crâne, Christine.
Non, ça va. Mais bonne réponse de
Christine, bravo!
Ah ouais.
Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente
qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé.
Pour quelle raison Michel Lagravert doit-il toujours justifier ce que fait son fils ?
Est-ce que son fils a des soucis neurologiques, justement ?
Non, du tout. Mais on a parlé de son fils il n'y a pas si longtemps dans cette émission.
Il est connu, son fils ?
Ah, oui.
C'est un sportif, son
Peut-être
fils.
Peut-être plus connu que le père.
Mais il n'a pas le même nom.
Alors, il n'a pas le même nom parce qu'on ne l'appelle que par son prénom, le fiston.
C'est Caca ?
Joujou.
Jordi ?
C'est Joujou.
C'est pas Joujou. C'est pas Jordi.
C'est un sportif ?
Sportif, on peut dire. Est-ce que c'est du sport ?
C'est le champion de baby-foot ?
Non.
C'est pas vraiment un sport, mais c'est physique.
C'est physique, en tout cas.
Et il est connu.
Et on en a parlé ici il y a pas longtemps, mais sauf qu'on connaissait pas le nom de son
papa. On connaît que son prénom?
Oui, on connaît que son prénom à son
Stevie
fils. Non. Mais Michel Lagravert, à chaque fois, est obligé de dire, mais non, enfin, écoutez, mon fils a le droit, et il se défend, et...
C'est un acteur de X. Escalade, l'homme araignée.
Comment ça?
C'est pas celui qui escalade les monuments,
Donc ce serait le père de celui qui escalade les monuments?
Ce serait le père de Spider-Man.
Non, du tout.
C'est un acteur de X?
Oui.
Du tout.
Ah. Il est très jeune, son fils?
11 ans.
Le taureau le plus jeune au monde, là.
Raphaël.
Bah, comment il s'appelait?
José Nino.
José Nino.
Un truc espagnol, on s'en fout, quoi.
Miquelito. Oui, bonne réponse de Fabrice Eboué, effectivement. On en a parlé il y a quelques jours. C'est lui qui vient de rentrer dans le livre des records pour avoir tué 6 taureaux d'affilée.
D'un coup.
Pas d'un coup, mais...
Il a 11 ans, il a tué 6 taureaux d'un coup.
Très fort. Mais c'est vrai qu'il a tué 6 taureaux d'affilée. Il a quand même, parce qu'on se posait la question, souvenez-vous, il y a quelques jours, on se disait, mais alors, est-ce que c'est des aussi gros taureaux non, que pour les adultes? Ce sont des taureaux âgés de 1 à 2 ans.
C'est des petits taureaux.
C'est des veaux, quoi.
Des veaux.
Non, c'est pas des veaux, non. 600 kilos, c'est pas des veaux.
7 fois plus lourd que lui, quand
non,
même.
Pas 600 kilos, oui.
Bah non, il doit faire quoi, 40 kilos à tout casser, 35 kilos.
Mais j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. 6 à 7 fois plus gros que le poids de Miquelito, en tout cas. Et effectivement, il y a des associations qui se plaignent, qui disent que ce n'est pas normal. Il taurait depuis l'âge de 6 ans, Miquelito, et son papa, c'est le torero français Michel Lagravert. Ça le fait moins, un torero qui porte un nom français. Michel Lagravert, ça fait pas nom de...
Non, ça le fait pas.
Torero, oui. Tandis que Miquelito...
Ouais. Hein, Miquelito Lagravert.
Les gens sont choqués qu'un môme tue des taureaux, mais dans les fermes, les mômes tuent des poulets, gavent des oies,
Enfin, ça n'a rien à voir. Non, mais il y a pas toute une cérémonie pour le gavage des oies avec 5000 personnes qui applaudissent parce que vous avez réussi.
Oui, bravo.
À foutre.
Et alors?
Et puis quand tu gaves une oie, tu mets pas un collant moulant, c'est ça qui est ridicule dans l'histoire.
T'imagines un peu le gavage des oies avec un type
avec le costume
de Luis Mariano, 10 000 personnes qui applaudissent.
Et les coqueleux du Nord, tu les as déjà vus, qui font des combats de coqs avec les coqueleux. Et
il y a les des coqueleux.
Oui, on les appelle les coqueleux dans le Nord, bah, chez les ch'tis, bien sûr. C'est de la tuerie de poules. Et vous en foutez parce que c'est des poules et je trouve ça dégueulasse. Parce que les poules aussi.
Ah non, mais c'est interdit aussi, les combats de coqs. Quand même.
Elles ont un cœur, les poules.
Oui. Ouais. Je suis désolé.
Les poules ont des sentiments, mais enfin, c'est pareil, le combat. Il n'y a pas un homme face aux poules.
Les poules ont des sentiments.
Les poules se combattent.
Il y a des poules amoureuses, bien sûr.
Les poules se combattent entre elles.
C'est vrai qu'un homme face à des poules, ça serait un peu con dans l'arène. Surtout en collant. Et
c'était Laurent Ruquier qu'on retrouve évidemment dès lundi à 16h sur Europe 1. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.